Customers are rushing to your store. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business. Take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. shopify.com/theathletic. As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Bonjour tout le monde, c'est l'heure du Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal. Je suis de retour, Marc-Antoine Godin, aux commandes, en compagnie de Arpin Basu. Arpin, comment ça a été la semaine dernière? T'as fait un podcast en mon absence. T'avais Mark Edwards de Hockey Prospects comme invité, ça s'est bien passé?
Oui, c'était difficile sans toi, mais j'ai pu réussir. Là. C'était quand même ça. Ça s'est bien passé. Non, c'était très intéressant comme conversation. Parler des différents espoirs pour le repêchage et un peu sa pensée de comment le repêchage se décortique. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Comme Marc est tout le temps, moi, j'aime ça quand on le voit sur, tu sais, au combine ou au repêchage ou quoi que ce soit. Il est tellement investi dans ça que ça rend ça tout le temps intéressant. Puis, tu sais, je suis le premier à admettre que moi, je connais rien relativement sur le repêchage de chaque année. À chaque année, au mois d'avril, il faut que tu te transformes en expert de repêchage, mais ces gars-là, ils travaillent à l'année longue et ça se voit quand ils se mettent à parler rendu à ce stade-là de la saison.
Absolument. Tu dis investi, méticuleux aussi. Ça a donné une conversation très intéressante. Mais écoute, là, je sais que les gens aime parler des espoirs, rêve au repêchage, rêve à Alexis Lafrenière. Mais avant qu'on soit rendu au repêchage, il y a vraisemblablement du hockey qui va se jouer. Je pense que ça va faire du bien de pouvoir parler de hockey à proprement parler. Il y a des joueurs sur la glace, la majorité des joueurs du Canadien sont arrivés à Brossard et s'entraînent maintenant en groupe. Et le camp d'entraînement comme tel va s'amorcer lundi à Brossard. qu'est-ce que tu vas regarder plus spécifiquement durant ce camp d'entraînement-là? Camp d'entraînement qui est peut-être un peu plus long qu'un camp d'entraînement traditionnel, mais avec moins de matchs. Ça va être beaucoup des séances d'entraînement, de la remise en forme. Mais qu'est-ce que tu vas identifier dans ces séances d'entraînement-là?
Ben, en fait, dès le départ, je pense qu'on va voir un peu les plans de Claude Julien. Si tu te rappelles, en septembre, au premier camp d'entraînement de la saison, c'est rare qu'il faut dire ça, mais le premier camp d'entraînement qui a eu lieu en septembre, dès le premier jour, il y avait beaucoup d'indications sur ce que Claude Julien voulait faire pendant la saison régulière. Beaucoup de ces combinaisons de joueurs qui étaient prévues pour amorcer la saison en Caroline étaient déjà faites. Et Claude l'a même avoué que c'est fort probable que ce qu'on voit aujourd'hui, on va le voir pour le premier match de la saison. Alors, je m'attends à ça encore une fois parce que c'est quand même particulier comme camp d'entraînement parce que tu te prépares pour une série contre une équipe spécifique. Alors, son alignement serait pas organisé nécessairement selon ce qu'il voudrait faire en saison régulière, il y a quand même une nuance là que il va organiser ses joueurs pour affronter les Penguins de Pittsburgh. Alors moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Tu sais, est-ce que Max Domi serait à centre, est-ce que Jesperi Kotkaniemi serait sur un des quatre premiers trios, avec qui va jouer Nick Suzuki, Jonathan Drouin, tu sais, il y a plein de questions, mais ce que je pense qui va être vraiment intéressant, c'est de voir un peu les divergences entre ce que Claude fait maintenant et ce que Claude a fait en septembre. Et si ces divergences-là sont reliées au fait qu'il se prépare pour une équipe en particulier.
Oui, effectivement. Puis tu mentionnes, est-ce que Domi va jouer au centre ou à l'aile, Kotkaniemi également. Ça, c'est deux cas qui sont assez intéressants. Dans le cas de Kotkaniemi, moi, ce que je suis intrigué de voir, c'est est-ce que le fait qu'il ait eu une longue convalescence à cause de sa blessure à la rate, qui l'a empêché pendant un certain temps de s'entraîner comme il faut, est-ce que ça fait en sorte qu'il a pas été en mesure de gagner peut-être la force physique dont il a besoin? Parce qu'il y a des jeunes joueurs qui vont avoir profité des 4 mois de pause pour avoir vraiment gagné en force physique. Puis, c'est peut-être ce qui va leur permettre de se démarquer davantage par rapport à leur saison recrue. Peut-être qu'un gars comme Nick Suzuki va arriver encore un peu plus campé, un peu plus fort qu'il l'était. Tandis que dans le cas de Kotkaniemi, je ne sais pas dans quelle mesure le fait qu'il était en réhabilitation pendant la majorité de ce temps-là, il va rentrer en ligne de compte. Puis pour ce qui est de Domi, ben, en tout premier lieu, là, on ne le sait pas parce que aux dernières nouvelles, il n'était pas encore arrivé à Montréal, ou du moins, il n'était pas encore sur la patinoire avec ses coéquipiers, mais il va devoir rencontrer le médecin de l'équipe, il va devoir rencontrer également un spécialiste en épidémiologie, et les médecins vont devoir déterminer si Domi est apte à jouer ou non. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont dans cette situation-là comme lui, mais est-ce que tu prends ça comme un fait accompli que finalement il va recevoir le feu vert?
Non, je pense pas que c'est un fait accompli pantoute. Je pense que Max Domi, c'est pas un diabète normal, disons. C'est pas quelqu'un, tu sais, parce que le monde qui souffre du diabète du type 1, ce qui est connu, c'est que ils sont pas nécessairement plus susceptibles à attraper le virus, mais une fois attrapé, ça risque de créer des complications un peu plus sévères dans leur cas. Sauf que dans le cas spécifique de Domi, et il y a des études qui démontrent ça aussi, le monde qui gère leur diabète d'une façon très méticuleuse, ce que Domi fait, il est très discipliné là-dedans. Alors, s'il y a une gestion méticuleuse, puis s'il y a évidemment une forme physique que Domi a aussi comme athlète professionnel, on s'entend que le risque est un peu mitigé, disons, comparé aux autres diabètes qui pourraient peut-être contracter le virus. Mais c'est pas un fait accompli parce que on ne sait pas comment le médecin, le spécialiste en question va interpréter toutes les études qui ont été faits à cet égard-là. On sait que Domi veut jouer et c'est clair que le risque, ça, en quelque sorte, reste à lui de le prendre. Mais juste à cause du façon que ça a été écrit dans le protocole de retour au jeu, que si un joueur est susceptible à développer une maladie sérieuse, il serait déterminé qu'il n'aura pas le droit de jouer. Et c'est clair qu'un diabète de type 1 est plus susceptible à ça. Peut-être pas Domi en particulier, mais les diabètes type 1 le sont. Alors ça, c'est une décision qui reste dans les mains du médecin et du spécialiste. Juste une chose sur Kotkaniemi qui vaut la peine de peut-être clarifier, mais oui, il était en réhabilitation, mais sa période de réhabilitation qui ne le permettait pas d'aller dans le gymnase, c'était relativement court, vers le mi-avril. Alors, c'était peut-être quelques semaines, 3 semaines. Il fallait qu'il rentre pas dans une gymnase pour sa conditionnement physique. Mais dès le mi-avril, il avait le droit de faire ça. C'est plus récent, c'était en mi-juin ou première semaine de juin où il a reçu le feu vert pour subir des contacts puis pour patiner puis jouer au hockey dans le fond. Mais le feu vert pour aller au gymnase, il l'a eu en mi-avril. Alors, dans ce sens-là, il devrait être correct dans ce sens-là, ouais.
C'est ce qui explique quand même, on a vu passer sur son compte Instagram une photo de lui en train de jouer au tennis, puis c'est vrai que avec tu sais, les t-shirts avec les manches coupées là, puis tu voyais que au niveau du haut du corps, il avait quand même pris un petit peu de coffre, sait-on jamais, espérons que ça va pouvoir l'aider. Mais écoute, dans le cas de Domi, je trouve ça tellement intéressant parce qu'il y a à l'aube de cette ronde de qualification-là, il y a tellement de facettes qui font de Max Domi un joueur intéressant. Il y a le côté médical, il y a le côté du joueur qui a hâte de prouver ce qu'il est capable de faire en séries éliminatoires puisqu'il n'a jamais joué un match de série dans sa vie. Il y a la question de son utilisation, tu y faisais allusion tout à l'heure. Et il y a également le fait que, tu sais, on en parlait abondamment avant la pause. Et là, ça a un petit peu, peut-être, ça s'est retrouvé un petit peu en arrière-plan. Mais il y a aussi le fait qu'il joue pour un contrat. Il est à la recherche d'un contrat, certainement un contrat lucratif et à long terme, c'est ce qu'il va souhaiter. Alors pour lui, ces matchs-là ont une grande importance pour démontrer vraiment l'étendue de sa valeur, puis peut-être donner aux Canadiens une autre impression que celle qu'il a laissée durant la saison régulière et qui s'est terminée. Puis là, de prouver que dans les matchs qui comptent le plus, quand l'intensité est élevée, quand l'enjeu est là, c'est vraiment, il devient un joueur des grandes occasions. Fait que c'est sûr que des séries éliminatoires, partout où il y a un enjeu, les joueurs essayent d'élever leur jeu d'un cran. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais je suis certain que dans la situation contractuelle dans laquelle Domi se retrouve, lui est dans un carrefour qui le rend particulièrement intéressant.
Oui, et je pense qu'il est juste... Il me semble être le genre de gars qui va bien réagir à ces situations, à ces défis-là. Il m'a toujours... Tu sais, il me donne toujours l'impression d'un gars qui serait parfait pour les séries. Il y a l'attitude, il y a le fait qu'il est capable de déranger l'adversaire. Alors, tu sais, juste pendant un match, on l'a vu plusieurs occasions au cours de la saison que Domi est capable de rentrer dans la tête de quelqu'un de l'équipe adverse. Alors, imagine match après match après match, ça doit avoir un effet. Et c'est quand même, c'est assez rare des joueurs qui sont capables de faire ça, mais qui ont les habiletés que Domi a. Il y a certainement des défauts, mais tout le monde peut s'entendre, son talent offensif, sa rapidité, son coup de patin, sa vision de jeu, c'est tous à un niveau pas mal élevé. Alors, avoir cette combinaison-là d'un gars qui est capable de produire des chances de marquer avec son talent, mais qui est aussi capable de déranger l'adversaire, c'est une combinaison qui est quand même assez unique. Ça a rendu, à plusieurs occasions depuis son arrivée à Montréal, ça lui a mis dans le trouble, dans le fond, ça a mis son équipe dans le trouble, et Claude Julien a eu à répondre à ses questions à plusieurs occasions, comme quoi que Max Domi doit trouver la ligne, de trouver la bonne ligne entre les deux aspects de son jeu, disons. Mais il me semble qu'en environnement de séries éliminatoires, c'est un gars qui pourrait vraiment tirer un avantage à cause de cette combinaison-là qui est quand même assez unique. Alors, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte aussi de voir de quelle façon Claude Julien pense l'utiliser. On parlait déjà de peut-être le déplacer à l'aile pour que Kotkaniemi pourrait rentrer au centre, disons, par exemple. Mais c'est aussi l'affrontement que Claude Julien va décider pour lui, parce que tout le monde, tu sais, on s'entend que le jeu défensif, c'est pas la force de Max Domi. Sauf que les Penguins de Pittsburgh, les Penguins de Pittsburgh présentent un défi quand même assez particulier, dans le sens où, tu sais, t'as deux joueurs qui sont parmi les meilleurs joueurs de tous les temps. Honnêtement, là, Malkin n'était pas parmi le top 100 que la Ligue nationale a choisi, mais, je pense que c'était un mauvais choix de leur part. Mais en tout cas, Evgeny Malkin, c'est un joueur, qui va probablement être dans le... Ouais, il va être dans le temple de renommée un jour, et évidemment, Sidney Crosby. Sidney Crosby va l'être aussi. Alors, c'est clair, à mes yeux au moins, que le trio de Philippe Dano va être donné, Claude Julien va leur donner la tâche d'affronter Crosby le plus possible. Mais c'est ce deuxième affrontement-là que je me demande ce qu'il va faire, et je me demande si on va le voir dès le début du camp d'entraînement lundi. Je pense que, tu sais, prenant pour acquis que Domi va être sur la glace, là, mais une fois que les Canadiens sont sur la glace, je sais pas exactement comment lundi va se dérouler, mais une fois qu'on voit Domi sur la glace, ce serait très intéressant de voir si Arturi Lehkonen joue avec lui. Et oui. si Lehkonen est avec lui, ça va être un indice à mes yeux qu'il a l'intention, au moins pour le départ, de donner ce défi-là à Domi, puis dire « Ok, j'aimerais savoir comment tu vas faire contre un Malkin ». Et ça, c'est parce que si tu vois c'est Drouin et Domi comme duo à gauche, là, ou si c'est, disons que c'est Drouin, Domi, Armia comme trio, ce serait difficile à voir comment tu mettrais ces trois gars-là contre un trio mené par Evgeny Malkin, tandis que si Lehkonen est là, je pense que ça donnerait un indice de l'utilisation que Domi doit s'attendre pendant la série contre Pittsburgh.
Ouais, c'est effectivement. Puis je pense que ça va, il y a beaucoup de choses qui pourraient jouer aussi au niveau des troisièmes trios, parce que si le Canadien décide soit d'envoyer Domi ou encore Nick Suzuki contre Evgeny Malkin, je pense que là il va y avoir un enjeu, il va y avoir une confrontation extrêmement importante. Mais le Canadien pourrait peut-être avoir aussi l'avantage rendu au troisième trio, parce que le troisième centre des Pingouins, au moment de la fin des activités ou de l'interruption des activités dans la Ligue, c'était Jared McCann. Puis je pense que avec des joueurs comme McCann ou Evan Rodriguez, des gars comme ça qui sont sur les qui sont dans la formation des Pingouins, ça risque peut-être d'aller à l'avantage du Canadien. Sauf que, évidemment, c'est une grosse commande. C'est facile de dire, ah ben là, si on regarde plus loin que Crosby et Malkin, je pense que on peut juste regarder les confrontations pour contre Crosby et Malkin, puis tu sais que c'est là que tu peux te faire mal le plus. Alors, ça va être intéressant à voir. Mais écoute, dans les différentes possibilités qui s'offrent à Claude Julien, il y a également la possibilité de dire, est-ce que je me tourne davantage vers mes vétérans, vers mes gars qui ont l'expérience des séries éliminatoires, qui sont capables de garder leur sang-froid dans toutes les situations, ou est-ce que je veux profiter de la situation qui est devant nous pour donner du minage, donner de l'expérience à mes jeunes joueurs? Autrement dit, si je formule la question différemment, est-ce que ce serait mieux que le Canadien se tourne vers, par exemple, Ryan Poehling, ou bien qu'il se tourne vers un Dale Weiss? Vers la fin de la saison régulière, c'était Weiss qui était là. Weiss avait joué sur une base régulière, puis Poehling était retourné dans la Ligue américaine. Mais là, dans la circonstance actuelle, est-ce que tu vois Claude Julien dire « Je vais faire pleinement confiance à mes jeunes pour essayer de gagner contre les Penguins de Pittsburgh? »
Ben, la beauté de la chose, d'une certaine façon, c'est clair que Marc Bergevin ne savait pas que ça allait arriver comme ça, mais ça me rappelle un peu Moneyball avec Scott Hatterberg, puis tu sais, le fait que Nick Cousins est plus là, Nate Thompson est plus là, Ilya Kovalchuk est plus là, ce sont des joueurs qui auraient eu un rôle, je pense, assez important au sein de cette équipe dans cette série-là. Tu pourrais dire à Nate Thompson carrément que tu vas partager la tâche contre Malkin avec disons Domi ou Suzuki ou qui que ce soit, mais tu pourrais donner un rôle important à un trio avec Thompson et Cousins et peut-être Paul Byron et dire ok, c'est ça votre tâche, puis ça libère mes deux autres joueurs de centre qui sont disons un peu plus vulnérables contre un trio comme celui de Malkin. Mais là, que c'est Jake Evans dans ce rôle-là que Thompson avait, ça change la donne beaucoup pour Claude Julien. Alors, dans le fond, ça, d'une certaine façon, ça lui force à avoir confiance dans ses jeunes parce qu'il n'a pas le choix. C'est lui-même, il l'a dit, tu sais, lui-même, il a parlé des joueurs qui ont parti à la date limite des échanges et a mentionné qu'il aimerait les avoir. Mais le fait demeure qu'ils ne sont pas là. Alors, tu sais, dans le cas de Poehling, je pense que c'est différent parce que c'est pas comme si Poehling jouait super bien à Laval. On s'entend, il y a quand même eu une saison en dents de scie à Laval où il y avait des bons moments, il y avait des moins bons moments. Puis c'était un ajustement pour lui. C'était une première saison professionnelle et l'ajustement était pas aussi fluide que pour Nick Suzuki, par exemple. Mm-hmm. C'est comme, alors, dans son cas, c'est une question de mérite. C'est une question, est-ce qu'il est meilleur que Derwis ou Jordan Wheel ou qui que ce soit? Alors, est-ce qu'il mérite sa place? Ce que j'espère que Claude va faire, c'est qu'il va baser les décisions sur le mérite. Peut-être que Poehling en particulier ne mérite pas de jouer. Et le Canadien, dans ce cas-là, doit dire, OK, on va tolérer ses erreurs, on va tolérer ce qu'il fait. Mais on va le faire jouer anyway parce qu'on veut aider son développement. Mais dans le cas, tu sais, en défense en particulier, tu sais, je pense à Noah Juulsen ou Cale Fleury, qui seraient vraisemblablement en compétition contre un Christian Follin pour jouer du côté droit de la troisième paire défensive. Tu sais, dans ce cas-là, j'espère que, parce que choisir ou Juulsen ou Fleury, je sais pas lequel des deux, mais l'un ou l'autre, le choisir contre un Follin, je pense que ça donne l'avantage en termes de développement, ça donne l'avantage en termes de l'avenir, mais ça donne l'avantage tout de suite, dans le sens où les deux joueurs sont beaucoup plus mobiles que Christian Follin. Follin, c'est pas comme s'il fait pas d'erreur, là. C'est pas un joueur qui est sans erreur. C'est pas un typique vétéran où tu peux dire, OK, il va me rendre de service fiable, puis je sais que je vais recevoir de sa part. C'est pas vrai dans son cas. Alors, s'il faut tolérer des erreurs, s'il faut tolérer les erreurs de Follin ou de Juulsen ou de Fleury, j'espère que Follin va être troisième sur ce liste-là.
Ouais. Ben écoute, si l'objectif c'est de gagner, je t'avoue que moi personnellement, si j'étais coach du Canadien, je serais plus ou moins à l'aise d'envoyer Noah Juulsen dans la mêlée, sachant qu'il a tellement peu joué cette saison, même la saison précédente également, mais tu sais, je pense que depuis le mois de novembre, il a joué un seul match depuis le mois de novembre. C'est un gars qui manque de minage, puis de partir à froid comme ça, où tous les joueurs sont appelés à passer de 0 à 100 quand même dans une fenêtre de temps assez petite. Moi, ce ne serait pas spontanément mon choix. Cela étant dit, si tu me donnes le choix entre Cale Fleury et Christian Follin, là, je te rejoins à 100 000 à l'heure. Je pense que Fleury est un gars qui a démontré un niveau de compétition extrêmement élevé, qui montre beaucoup de potentiel, vraiment une grosse courbe d'amélioration qui s'annonce devant lui. Alors, ce serait un gars que j'aimerais voir dans l'alignement. Peut-être aussi que le Canadien va simplement décider d'utiliser Victor Mété à droite. On l'a vu à l'occasion, surtout en deuxième moitié de saison. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Mais pour moi, je pense qu'il y a une question philosophique derrière ça pour le Canadien de dire « OK, on embarque là-dedans, on fait fi du bruit extérieur de tous les gens qui disent « Ah, ben, perdez donc, qu'on en finisse puis qu'on ait une bonne chance de repêcher premier. Faisons fi de ça, essayons de gagner. » Mais à l'intérieur de ça, il faut qu'on puisse rentabiliser au maximum cette expérience-là. Puis l'expérience de ces éliminatoires est tellement rare. Quand on pense que des gars comme Philippe Dano, Paul Byron, Arturi Lehkonen ont seulement 6 matchs d'expérience en série dans leur carrière, il faut que tu munisses au moins tes meilleurs joueurs, tes gars comme Kotkaniemi, comme Suzuki, on mentionnait Fleury et d'autres. Il faut que tu leur donnes l'occasion de pouvoir profiter de cette expérience-là, parce que je pense que tu fais d'une pierre deux coups en y allant de cette manière-là.
Oui, puis en plus, quand tu y penses, tu sais, c'est comme, prenons Nick Suzuki par exemple, après les séries qu'il a connues l'année passée dans la Ligue de l'Ontario, suggère, et c'était non seulement que lui était super productif puis a mené son équipe, mais Mais quand même, tu sais, ils perdaient 3-0 dans leur première série, 3-0, 3-1 dans la deuxième série. C'était des séries où lui a eu du millage, là, même si c'était au niveau junior. Mais tu sais, il jouait comme 28, 29 minutes par match dans ces matchs-là. Là, c'était malade. Il jouait quasiment à chaque deux présences. Et ouais. Tu sais, il tuait des punitions, il jouait sur power play, il était dans toutes les situations, tous les gros face-offs, c'est lui qui les prenait. Alors, et était complètement visé constamment par l'équipe adverse en tout temps. Et a jamais flanchi, a jamais pris une pénalité de rétaliation, de réplique, il était, là, ouais. De réplique, là, ouais, c'est ça, c'est quand même, c'était impressionnant de le voir aller, où toutes les yeux étaient sur lui, le plan de match de l'équipe adverse était basé sur lui arrêter, puis a pu continuer à produire, il a continué à jouer, il s'est jamais plaint de tous les coups qu'il prenait derrière le jeu, puis, alors, tu sais, ça, c'est juste un exemple que, tu sais, ces jeunes joueurs-là, même s'ils n'ont pas d'expérience des séries de la Ligue nationale, puis tu sais, je suis full conscient que les séries de la Ligue nationale sont quelque chose de complètement différent là, mais c'est important de les donner cette opportunité là, de commencer à savoir c'est quoi la différence, qu'est-ce qui est la différence et comment moi je peux m'ajuster aux différences qui existent ici, et c'est ça leur opportunité en plus, parce que dans le fond il y a les bénéfices de ça. Pour des joueurs comme Kotkaniemi, Suzuki, Fleury, tous les joueurs qu'on a nommés, même Domi, même Drouin, en fait, il y a tellement de joueurs qui ont besoin de ça, mais en plus, ça leur donne, à mon avis, la meilleure chance de gagner. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que la plupart du temps, on pense des recrues en série, là, c'est après que ce recrue-là ait frappé le mur. Okay? Dans le cas de Nick Suzuki, au moment où la saison a été suspendue, il avait, selon Claude Julien, avait frappé un mur. Kotkaniemi, l'année d'avant, avait frappé un mur en mois de février. Alors, là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de mur, là. Ça fait comme 4 mois qu'ils font rien. Et, ouais. Ils sont pleins d'énergie. Le tank est à plein, là. Puis, alors, ça change la dynamique de ce qu'on s'attend normalement d'un recrue en série. C'est différent, là. Alors, dans ce sens-là, l'énergie d'un recrue, rapidité, juste toutes les bonnes choses qu'un recrue peut amener, me semble être à leur portée là. Parce que c'est souvent octobre-novembre où les recrues performent le mieux là. Alors là, on est dans une situation octobre-novembre pas mal.
Là. Ouais, parce que écoute, les jeunes joueurs là, tu sais, souvent ceux qui ont eu de la difficulté à s'ajuster à un calendrier de 82 matchs au côté éreintant d'une longue saison. Là, ils sont complètement reposés. Ils ont également l'occasion de décanter un peu la saison qu'ils ont vécue. Un gars comme Nick Suzuki peut dire « Ok, bon, mais là, il y a telle chose qui m'est arrivée. Si c'était à refaire, peut-être que dans telle situation, je ferais telle chose. » Ils ont gagné de l'expérience. Non seulement ils ont gagné de l'expérience à cause de cette première saison-là, mais je veux dire, ils ont traité cette expérience-là dans leur tête. Ça, c'est la première chose. Sauf que de l'avoir compris, c'est une chose, mais encore faut-il qu'ils soient en mesure de le démontrer, de le mettre en pratique et de prouver à Claude Julien que toutes les leçons de la saison régulière 2019-2020, je suis en mesure de maintenant les mettre à profit, puis de te prouver, coach, que dans le fond, je suis rendu un joueur de deuxième année. Et ça, ça prend une certaine ouverture de la part du coach pour pouvoir être capable de regarder ça puis de se montrer ouvert à ce que ton jeune joueur te le démontre. Puis je ne sais pas si durant le camp d'entraînement, c'est le genre de choses que le coach va voir, mais il va falloir que, parce que peut-être que ça se mesure seulement une fois qu'on est rendu dans un contexte de compétition, quand on est rendu dans les matchs, mais c'est important que le Canadien donne la chance justement à ces jeunes de dire bon ben là vous avez pris du minage, maintenant montrez-nous que vous êtes capable de tirer les fruits, tirer les leçons de ce que vous avez vécu auparavant.
Dans ce sens-là, je suis intéressé de savoir, comment penses-tu que si Kotkaniemi joue Et je pense qu'on est tous les deux d'accord qu'il devrait jouer pour toutes les raisons que tu viens de donner, toutes les raisons que nous, on donne depuis. Mais comment est-ce qu'il pourrait s'insérer dans cet alignement-là?
Ben, écoute, je trouve ça problématique. Parce que, à mon sens, il espérait que Kotkaniemi a besoin de jouer au centre. C'est sa position naturelle. Et je pense que si on essaie simplement de lui trouver une place à quelque part sur l'aile pour lui donner une place dans le top 9, ça risque de le mélanger plus qu'autre chose. Au moment de la fin des activités, c'était un membre du Rocket de Laval. Il y avait un message qui lui avait été envoyé de disant bon, ben, il y a telle chose qu'on veut que tu améliores dans ton jeu pour que tu puisses revenir dans la Ligue nationale, puis il était prêt à travailler là-dessus. Là, il doit d'abord démontrer qu'il est un joueur de la Ligue nationale, qu'il est redevenu un joueur de la Ligue nationale. Alors, à mon sens, ce serait beaucoup mieux qu'on le mette au centre d'un quatrième trio, qu'on donne peut-être une composante un peu plus offensive à ce quatrième trio-là, avec un gars comme Paul Byron qui est quand même capable de marquer des buts, qui a de la vitesse, etc., puis qui peut vraiment, quand tout le monde est en santé, apporter une belle profondeur à l'équipe. Je pense que si la décision est prise que Domi est utilisé au centre, Suzuki est utilisé au centre, donc les deuxièmes et troisièmes trios, c'est réglé au centre. Mais peut-être qu'au lieu de mettre Kotkaniemi à l'aile puis de commencer à jouer au yo-yo comme ça avait été le cas avec Alex Galchenyuk, peut-être que de dire, ben, on va simplement lui donner des responsabilités un peu plus réduites comme quatrième centre, mais on va le remettre dans le contexte, on va le garder à sa position naturelle, puis on va en prendre autant qu'il va pouvoir nous en donner. Et si jamais il performe particulièrement bien, ben là, ça peut devenir intéressant de dire, ben là, ça nous donne une option de plus pour peut-être mettre Domi à l'aile puis le monter au troisième trio. Je comprends qu'au plan défensif, au plan des mises en jeu en zone défensive, ce serait pas de la tarte. Mais même si c'est le rôle qui éventuellement va échoir à Jake Evans, Jake Evans n'est pas prêt. Ben, en tout cas, dans l'image que j'ai vue, Jake Evans ne pouvait pas remplacer tout de suite ce que Nate Thompson faisait ou ce que à une certaine époque Manny Malhotra faisait. Il n'est pas encore ce type de joueur-là. Alors, est-ce que la différence serait bien grande entre les deux? Je le sais pas. Je pense que ce serait surtout plus important qu'on puisse donner du millage à la position naturelle de Kotkaniemi, c'est-à-dire au centre.
Ouais, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi, sauf que j'hésite entre l'importance de le garder à sa position naturelle ou l'importance de le mettre dans un rôle qui lui convient. Tu sais, parce que souvent, on se plaint que le Canadien, Claude Julien, Michel Therrien avant lui-même, qui mettait des joueurs dans des rôles où ce serait difficile d'avoir du succès. Ils se mettaient pas dans des positions de se faire valoir légitimement. Tu sais, le cas de Charles Hudon, ça revient tout le temps. Qu'est-ce que Charles Hudon peut faire sur un quatrième trio? On l'entend à chaque fois qu'il est rappelé, à chaque fois qu'il entre dans la formation. C'est ça la plainte. Tu sais, ça vaut quoi avoir Charles Hudon sur un quatrième trio? Alors j'ai la même question. Ça vaut quoi avoir Jesperi Kotkaniemi sur un quatrième trio? Je me demande si, tu sais, juste temporairement, juste lui dire, écoute, t'as déjà joué à l'aile, il a joué sa première saison professionnelle en Finlande, il l'a joué à l'aile gauche, de lui dire, écoute, on veut te mettre à l'aile parce qu'on veut te mettre dans une situation où on veut te mettre avec des joueurs qui vont mieux utiliser tes talents et mieux te protéger de tes faiblesses. Alors, tu sais, je peux voir une situation où tu mets Kotkaniemi à la gauche de Suzuki, puis comme ça, ils ont un droitier et un gaucher pour prendre les mises en jeu, et lui dire, écoute, c'est comme ça qu'on va le faire pour l'instant, mais dans nos yeux, tant et aussi longtemps que ça soit clair, que le Canadien, quelqu'un du Canadien, soit Claude Julien, soit Marc Bergevin, s'assoit avec lui puis dit, écoute, on te voit comme un joueur de centre, mais là, dans cette situation extrêmement unique, on va dire, on va t'utiliser à l'aile, mais la raison qu'on fait, c'est qu'on croit en tes talents, on croit en tes habiletés, puis on veut t'avoir dans notre top 9 et pas sur un quatrième trio qui joue 7-8 minutes par match. Ça, c'est, je pense, ça serait plus valorisant pour Kotkaniemi d'entendre ça que d'entendre que, écoute, on te voit comme un centre, on veut absolument que tu joues à cette position-là, mais pour le faire, il va falloir que tu joues sur le quatrième trio. Je sais pas ce qu'il pourrait faire dans ce rôle-là, tandis qu'à l'aile, sur un trio plus offensif, ce serait il me semble que ce serait un meilleur vote de confiance envers le jeune, après que on s'entend que sa confiance a pris toute une... Ça a été assommé, disons, cette saison. Ça a pas bien été à ce niveau-là. Alors, je me demande, je sais pas, je suis pas entièrement... C'est pas que je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, mais il y a cet autre aspect-là où je me demande qu'est-ce qui serait le plus bénéfique à l'équipe et à Kotkaniemi lui-même.
Ben, écoute, fondamentalement, Arpin, je veux dire, en affaire, c'est que j'ai l'impression que si le Canadien juge qu'il a de meilleures chances de gagner aujourd'hui avec Suzuki au centre et Domi au centre, je vois pas pourquoi leur logique changerait dans quelques mois, c'est-à-dire au début de la prochaine saison. À mon sens, les meilleures chances du Canadien, c'est en utilisant Max Domi à l'aile, Suzuki au centre et puis Kotkaniemi au centre. Ça, c'est à mon sens, et surtout que c'est clairement là où, dans le développement de cette équipe-là, c'est là où ça s'en va. Alors, si c'était moi, je vais reformuler un peu ce que je te disais précédemment. Mon scénario numéro un, ce serait de procéder de cette manière-là, c'est-à-dire d'envoyer Domi à l'aile et puis de redonner le poste de troisième centre à Kotkaniemi. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais il coûte cher à son équipe, qu'il met son équipe dans le pétrin au plan défensif et qu'il n'y a pas de production en attaque, ben il y a peut-être un plan B de ramener Domi au centre puis de remodeler ça autrement. Sauf que, encore là, il faut que, idéalement, si tu crois en tes jeunes joueurs, il faut que ce que tu penses être la meilleure façon de battre les Penguins de Pittsburgh et d'aller en séries éliminatoires, la meilleure formation, ben j'ose croire que ce que tu crois aujourd'hui, ça va encore être valide dans 3 ou 4 mois au moment où la prochaine saison va commencer. Donc, il faut que tu construises autant en fonction de maintenant et que de plus tard. Parce que je sais que Claude Julien disait « Ouais, mais là, l'important, c'est qu'on batte les Pingouins. C'est pas moi, je ne coache pas en fonction du 1er janvier prochain. » Fine. Sauf que cette équipe-là, elle est parfaitement dessinée pour qu'à terme, Suzuki et Kotkaniemi soient deux joueurs de centre puis que Domi devienne un allié. Fait que pourquoi ne pas y aller dès maintenant de ce côté-là?
Ben en fait, ça prend pour acquis que Domi va être là la saison prochaine.
Ouais, ouais, ouais.
Et
ouais.
Considérant les modalités du convention collective, je pense que c'est une question qui vaut la peine d'examiner. Alors dans le fond, ça fait une belle transition à notre prochain sujet.
Oui, c'est ça. Le support athlétique vous est présenté par Manscaped, le leader dans le domaine des soins pour hommes sous la ceinture. Manscaped vous propose des outils de la plus grande précision pour s'occuper de vos bijoux de famille. Manscaped vient juste d'être lancé au Canada. Donc, chers auditeurs, vous pouvez être parmi les premiers Canadiens à faire l'expérience de produits qui vont changer votre vie. C'est pas tout le monde qui aime avoir un grand terrain, sortir sa tondeuse et son coupe-bordure, mais quand il s'agit de soins personnels, ça vaut la peine. Manscaped a lancé son Lawnmower 3.0 qui est fait exprès pour réduire les accidents d'épilation. Et en plus, il y a une technologie résistante à l'eau qui vous permet de l'utiliser dans la douche. Et non seulement la pile dure jusqu'à 90 minutes, mais c'est possible de recharger le Lawnmower 3.0 avec une prise USB. Profitez de 20% de réduction et de la livraison gratuite en utilisant le code THEATHLETIC sur manscaped.com. M-A-N-S-C-A-P-E-D. Manscaped, c'est 20% de réduction avec la livraison gratuite sur manscaped.com. Vous n'avez qu'à utiliser le code THEATHLETIC. Et pour un temps limité, les abonnés ne reçoivent pas un, mais deux cadeaux gratuits. Le sac de voyage Shed d'une valeur de $39 et le caleçon boxeur Manscaped Haute Performance qui est breveté contre les frottements. Alors rendez-vous sur manscaped.com dès aujourd'hui et utilisez le code
Ce sujet-là, c'est la conversation collective, puis effectivement, comment ça pourrait affecter le Canadien, comment ça pourrait affecter certains joueurs du Canadien, Domi étant un. Domi et Victor Mété sont tous les deux des joueurs autonomes avec compensation. Dans le cas de Domi, tu sais, comme tu disais tantôt, que tu sais, il s'attend à avoir un contrat à long terme pour beaucoup d'argent, puis c'est sûrement vrai, mais dans le contexte actuel, il y a beaucoup qui a changé pour ces joueurs-là. Et non seulement Domien Mété, mais particulièrement le groupe de joueurs autonomes sans compensation de l'année prochaine, de 2021-22. Parce que, ouais, c'est ça. 2021-22, qui auront le droit, trois jours après, ben, dans le fond, effectivement, aussitôt que la semaine prochaine, auront le droit de négocier des nouveaux contrats avec les Canadiens. On parle de Brendan Gallagher, Philippe Dano, Thomas Tatart, le premier trio au complet, Jeff Petrie, et Yoel Armia. Et ces gars-là, le contexte de leur situation vient de changer d'une façon extrêmement significative. Parce que, c'est premièrement, la nouvelle convention collective prévoit que le plafond salarial ne changera pas pendant 3 ans. Alors en déjà... Fait,
il ne changera pas jusqu'à ce que la Ligue rejoigne un certain niveau de revenus reliés au hockey qui est de 4,8 milliards de dollars. Et ils ne s'attendent pas... Les pronostics, c'est que la Ligue n'arrivera pas à le faire d'ici 3 ans. Donc, c'est pas coulé dans le béton. Ça pourrait être 2 ans. Ça pourrait être 4 ans. Mais les pronostics initiaux, c'est que le plafond de 81,5 millions, la Ligue va l'avoir pendant 3 ans.
Mais c'est ça. Puis, alors, en plus de ça, il y a les plafonds qui ont été mis sur le montant en fiducie que les joueurs sont obligés de soumettre. Et ça commence avec un plafond de 20% de leur salaire. Et ça descend au cours des années à 6 à 8%, je pense. Alors, les joueurs, tu sais, tu penses à Taylor Hall maintenant, là. Taylor Hall a 2 options. Ou il signe un contrat pour dans 2 ans, puis redevient joueur autonome avec sans compensation dans 2 ans. Ou il signe un contrat à long terme, sauf qu'il garde l'argent, le gros de l'argent, il le veut pas tout de suite. Il le veut dans 3-4 ans, quand le portion en fiducie serait beaucoup moins. Alors, ça change un peu la dynamique pour ces joueurs-là, Domi en étant un. Mais dans son cas, je pense que toute cette affaire-là, ça aide le Canadien parce que je suis pas certain que le Canadien voulait nécessairement lui donner un contrat à long terme pour beaucoup, beaucoup d'argent. Sans savoir qu'est-ce qui va passer avec ses autres joueurs, sans savoir comment tous les autres contrats vont arriver autour de lui. Et peut-être que maintenant, le désir de Domi de signer un contrat à long terme est moindre qu'avant. Que lui, il peut voir le bénéfice de signer un contrat de 2 ou 3 ans, devenir joueur autonome sans compensation quand le portrait économique est un peu meilleur. Alors peut-être ça aide le Canadien d'une certaine façon de le re-signer, mais d'une autre façon, je vois Domi comme étant une possibilité de transaction très forte quand même dans la saison morte cette année.
Oui, absolument. Là-dessus, on se rejoint tout à fait. Je continue de croire que Domi est probablement le meilleur appât que le Canadien a à sa disposition, entre autres pour aller chercher un défenseur. Mais écoute, le portrait de la nouvelle convention collective avec les chiffres que tu as donnés, autant le plafond qui reste le même pendant, disons, 3 ans, que les montants en fiducie, ce qu'on appelle en anglais l'escrow, qui, au début de l'entente, c'est des montants qui vont être très élevés. C'est sûr que ça va inciter les joueurs à dire, ben peut-être est-ce que je peux retarder le montant de mon gros contrat, le montant où je vais faire le plus d'argent? C'est normal pour un gars comme Max Domi qui a 25 ans de penser comme ça parce que s'il dit je retarde mon gros contrat de 2 ou 3 ans, il va quand même avoir seulement encore 28 ans. Tandis que tu te mets dans la place d'un joueur autonome sans compensation comme Tomáš Tatar par exemple ou Philippe Dano qui en est un autre qui va avoir qui au courant de la saison prochaine, ben en fait à la fin de la saison 21-22 va devenir autonome sans compensation. Ces gars-là, chaque année compte pour eux, puis dire ben je retarde le moment où je vais avoir mon gros chèque de paye, c'est un élément de risque parce que quand tu arrives à l'aube de la trentaine, ben c'est bien connu, les joueurs s'exposent à une diminution de leur rendement. Puis si tu veux à trop vouloir faire le fin finot puis à dire ah ben je vais attendre tel moment, ça va être, puis je vais faire ma stratégie comme ci comme ça, ben tu peux peut-être passer à côté à cause d'une blessure, à cause d'une chute de production. Mais tu sais, là pour l'instant Dano a 27 ans, mais il va avoir 28 au moment, en fait même il va avoir 29 au moment du du déclenchement de... Non, il va avoir 28 ans au moment de son autonomie complète. Tata va en avoir 30. Donc, c'est plus urgent pour eux. Alors, mais c'est clair que pour le Canadien, cette situation-là, elle est extrêmement intéressante parce qu'il y a tellement de joueurs. Puis ça, c'est, écoute, on en a parlé puis on a écrit un paquet d'articles, toi et moi, sur ce fameux été 2022. Mais là, le fait que le Canadien... 2021. Excuse-moi, oui, l'été 2021, merci. Oui, c'est ça. On en a tellement écrit, je me mais quand même, de se retrouver avec autant de joueurs autonomes sans compensation et savoir que non seulement le plafond va rester le même pour l'année suivante, mais même pour les deux saisons suivantes, ça pourrait être une opportunité pour le Canadien, soit de dire, ben, on fait confiance à notre équipe ou on fait carrément table rase puis on recommence avec un autre noyau complètement. Alors, ça va être les 12 ou 15 prochains mois pour le Canadien vont être extrêmement importants parce que au moment de la date limite des transactions, Marc Bergevin avait dit « Je fais confiance encore à mon noyau. » Mais son noyau, là, il y a une minuterie dessus, il y a un compte à rebours. Puis avec les conditions qu'on connaît, ça va devenir plus délicat que jamais de dire « Est-ce qu'on garde ce noyau-là intact ou on décide de le démanteler? »
Oui, puis effectivement, je pense que le Canadien aime cette flexibilité-là. Il n'y a aucune question que le Canadien adore Gallagher, adore Dano, adore même Tatar. T'sais, Tatar, ce qu'il a amené depuis qu'il est venu, il est littéralement un des ailiers le plus efficace de la Ligue en termes de beaucoup, beaucoup de chiffres. Là. Même, tu sais, c'est le meilleur marqueur de l'équipe cette année. Ils ont quand même une valeur, mais avec tous les espoirs que le Canadien vient d'ajouter à leur organisation, avec les autres qui vont ajouter dans ce repêchage-là à venir, il y a une question à demander que, tu sais, est-ce que, tu sais, tu veux pas, tu entends souvent, puis les Canadiens, c'est leur philosophie, ils veulent pas juste donner l'équipe aux jeunes. Alors, il faut qu'il y ait des vétérans, des joueurs pour servir comme des mentors pour ces joueurs-là. Un gars comme Gallagher, je pense que c'est clair que les Canadiens aimeraient qu'il joue ce rôle-là. Dano peut-être aussi. Mais la flexibilité que cette situation leur donne est aussi un peu mitigée par ces conventions collectives. C'est comme, disons que, le Canadien, c'est une des seules équipes, il y en a peut-être 6-7 équipes dans la Ligue nationale qui ont quand même de l'espace en dessous du plafond salarial et qui sont bien positionnées pour cette nouvelle réalité où le plafond va pas augmenter pendant 2, 3, 4 ans, on sait pas combien de temps. Alors, mais en même temps, ils ont toutes ces obligations financières qui de leurs propres joueurs qui sont là, puis c'est leur option si oui ou non ils veulent les signer ou pas. Il y a aussi l'autre façon de peut-être en profiter de la situation, ou peut-être essayer de signer une autre offre hostile ou aller chercher des joueurs sur le marché des joueurs autonomes où le Canadien pourrait utiliser la même stratégie qu'ils ont utilisé avec Sebastian Aho. Peut-être pas cet extrême-là, mais t'sais, utiliser leur force financière pour effectivement aller chercher un joueur d'impact. Sauf que la nouvelle convention collective vient de empêcher des offres comme ça parce que avant, la limite entre l'année le plus riche d'un contrat puis l'année le plus pauvre d'un contrat était 50% avant. Il fallait que l'année avec le moins d'argent donné était au moins 50% du valeur de l'année où le plus d'argent a été donné. Puis dans le cas d'Aho, si tu regardes la façon dont le contrat s'est décortiqué pendant tout le long du contrat, c'était exactement ce chiffre de 50% qui revenait. Là, salaire...
Oui, la première année de son contrat, il recevait 12 millions en salaire, tandis qu'à la plus petite année de son contrat, il va en recevoir 6.
C'est ça. Alors là, ce chiffre-là est rendu à 35% dans la nouvelle convention collective. Alors, une équipe comme le Canadien qui déjà avait de la misère à signer des joueurs autonomes, sans restriction ou avec, ont plus autant d'avantages dans ce domaine-là. Ils pourraient pas aller comme marauder des équipes un peu plus pauvres en faisant une offre comme ils l'ont fait pour Aho. Même si Tom Dundon a facilement décidé d'égaler l'offre, toute l'offre a été construite pour que les Hurricanes donnent à Aho beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans les 12 premiers mois du contrat. Puis là, le Canadien pourrait... Alors, je pense que là, si ça, faisait partie de leur stratégie d'essayer d'ajouter un joueur d'impact en utilisant ce règle-là à sa pleine potentielle, comme ils ont fait dans le cas d'Aho, ça vient d'être un peu mitigé, cet avantage-là. Puis je me demande si les Canadiens vont revoir un peu la possibilité d'aller chercher du joueur de cette façon-là. Et si c'est le cas, est-ce que ça va avoir un impact sur la décision de oui ou non, on garde, disons, un Thomas Tatar, par exemple? Est-ce que ça affecte cette décision-là de quelque sorte?
Effectivement. Puis, tu sais, c'est vrai que les questions de variabilité des années de salaire, c'est pour les gros salariés, ça peut avoir une grosse différence. Mais même si tu regardes le bracket de joueurs qui est juste en dessous, des gars qui pourraient être payés 4 ou 5, 6 millions par année, t'as quand même des... Tu sais, il y a le nom de certains défenseurs qui me vient en tête par rapport à cause des équipes qui sont coincées contre le plafond salarial. Je pense entre autres à Vince Dunn avec les Blues de Saint-Louis. Écoute, ce gars-là, si une équipe s'amenait puis décidait de lui offrir, je ne sais pas moi, quelque chose comme 4 millions par le biais d'une offre hostile, les Blues seraient vraiment mal pris pour réussir à pouvoir égaler une offre comme celle-là si leur désir est bel et bien de re-signer Alex Pietrangelo. Avec le Lightning de Tampa Bay, Mikhail Sergachev, si une équipe se présentait, disons, nous, on va t'offrir 6 millions, mon beau Mikhail, ça va être difficile pour le Lightning de pouvoir égaler une offre comme celle-là, sachant qu'ils ont déjà tellement d'argent consenti à d'autres joueurs, puis ils ont des joueurs de premier plan également qui restent à être mis sous contrat. Donc, pour une équipe comme le Canadien, je pense que c'est vrai que les questions de variabilité, ça rentre en ligne de compte, sauf que si le Canadien décide de dire, ben là, on va ramener tous les gars qui sont là, tout notre noyau, et on le laisse intact, est-ce qu'il en restera encore pour pouvoir payer un Vince Dunn 4 millions ou payer un Sergachev 6 millions? C'est la question que je me pose, parce que le Canadien a beau être dans une situation financière très, très saine au niveau du plafond salarial, puis d'avoir une flexibilité que bien des autres équipes n'ont pas, reste que le plafond reste quand même à 81,5 millions. Puis je pense qu'il doit, tu sais, compte tenu de la qualité de l'équipe, c'est beau de respecter le noyau, les gars qui sont en place, mais peut-être que si l'équipe se dit, ben on ne gagnera peut-être pas la Coupe Stanley avec ce noyau-là, essayons de changer le mix un petit peu puis d'intégrer d'autres joueurs. Ce serait je pense que c'est une porte que le Canadien doit garder ouverte, que celle de pouvoir aller chercher des joueurs autonomes avec compensation par le biais des offres hostiles.
Ouais, puis non seulement ça, mais il faut garder la porte ouverte comme étant un havre pour les équipes qui ont besoin d'enlever du salaire de leur équipe. Notre collègue Joe Smith à Tampa Bay récemment a écrit un article sur leur situation en termes du plafond salarial, puis a suggéré la possibilité que Alex Killorn soit échangé au Canadien à un moment donné. C'est juste un exemple. Je pense pas que c'est exactement le meilleur fit, disons, pour en termes d'âge et prix et tout ça. Je suis pas sûr qu'Alex Killorn marquerait autant de buts avec le Canadien qu'il le fait avec le Lightning. Mais c'est juste un exemple d'une situation où le Canadien pourrait en profiter en regardant toutes les équipes qu'il va falloir qu'ils prennent des décisions extrêmement difficiles tout autour de la ligue. Va falloir que le Canadien garde cette porte ouverte, comme tu as dit. C'est toutes les avenues sont là pour eux, mais une chose que le Canadien doit éviter, c'est juste de tomber en amour avec leurs propres joueurs quand ce groupe-là, avec le groupe de jeunes qui s'en vient, c'est vraiment ça qui doit être la priorité. C'est quel groupe de vétérans est le mieux placé pour rendre le groupe de jeunes qui s'en vient meilleur? Et pour que le groupe de jeunes qui s'en vient devienne notre prochain noyau. Alors, c'est ça qu'il faut déterminer. C'est ça, il faut aller chercher des joueurs pour que le mix soit bon, pour que t'as pas trop de jeunes joueurs, t'as pas trop de vieux vétérans dans la trentaine. Tu veux vraiment avoir un mix des gars dans le mi-vingtaine, le fin-vingtaine et quelques-uns dans la trentaine, mais pas trop. Et déjà, tu en as deux qui vont être là pendant des années. Alors, ça donne déjà deux gars qui fait ce cas-là. Puis, s'ils gardent Jeff Petrie, ça va en faire trois. Alors, là, rendu là, est-ce que tu signes Dano pour 6 ans? Est-ce que tu signes Tatar pour 3 ou 4 ans? Est-ce que tu prends ces décisions-là en sachant que non seulement que tu as des jeunes qui s'en viennent puis que tu veux le bon mix, mais tu as aussi besoin de libérer des places dans ta formation pour ces jeunes-là, que le plan est clairement basé sur eux, là. C'est ça, le succès du Canadien va dépendre sur les joueurs qui ont été repêchés depuis les 2 dernières années de devenir le nouveau noyau de l'équipe. Alors, comment favoriser cette transition-là de la façon la plus efficace pour que ça arrive le plus vite possible? C'est aussi ça la question. Puis, je suis pas certain. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas comment faire ça, mais ça non, doit mais, être non, la priorité du Canadien.
Ouais, mais le problème derrière ça, c'est que c'est beau de faire de la place, c'est-à-dire bon, il faut qu'on aménage notre formation pour faire une place à Cole Caulfield, mais en même temps, les équipes, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire on a notre équipe et nos jeunes arrivent et les jeunes tassent des gars qui sont sur place. C'est-à-dire que tu crées pas un trou en disant mon jeune va remplir ce trou-là, parce que normalement c'est des équipes vraiment de bas de classement qui vont faire ça, des équipes qui ont personne d'autre. Mais de dire ben on a un actif, on va échanger par exemple, je sais pas moi, on va échanger Yoel Armia ou on va ne pas signer Yoel Armia parce que Cole Caulfield va arriver. C'est toujours un exercice dangereux parce que tu peux affaiblir ton équipe si le jeune n'est pas à la hauteur des attentes ou encore si ça prend juste un peu plus de temps que ce que tu aurais voulu pour qu'il devienne ce qu'il est. Fait que souvent, tu veux garder la meilleure équipe possible puis dire à un moment donné, le jeune joueur nous en démontre tellement qu'il prouve que le gars qui lui barre la route, on peut l'échanger, on peut s'en débarrasser.
Sauf que, juste un point là-dessus, c'est que oui, en temps normal, ça serait relativement facile d'échanger un Yoel Armia sous contrat, sauf que là, ça va déjà c'était difficile de faire des échanges. On s'entend là-dessus. Mm-hmm. Là, ça va seulement devenir plus difficile de faire des échanges, juste à cause de la situation salariale et économique et tout ça. De se fier pour dire que, ok, bon, ben si Ilonen se démontre l'année prochaine qui est prêt pour la Ligue nationale, ah ben c'est pas grave, on va juste échanger tel gars. C'est pas aussi simple qu'avant, là. Puis même avant, c'était pas si simple que ça, mais juste échanger un gars sans reprendre de l'argent ou whatever. Tu sais, l'aspect argent là-dedans rend ça vraiment, vraiment compliqué.
Ouais.
Ben, pendant écoute, les prochaines années particulièrement.
Là. Ouais, ben c'est là où le fait d'avoir des gars qui sont autant de joueurs qui deviennent joueurs autonomes sans compensation te permet de dire, ben, au lieu de les échanger, la question devient davantage de savoir est-ce qu'on les re-signe ou non.
C'est exactement ça, mais ça donne le danger là-dedans, c'est ce que tu as identifié. Le danger là-dedans, c'est que tu dis, Yoel Armia, il joue de la côté droite, Cole Caulfield joue de la côté droite, on aimerait avoir un spot pour Cole Caulfield sur le côté droite en 2021-22. On re-signe pas Yoel Armia, puis Cole Caulfield arrive, puis il est pas prêt. C'est ça le danger. Mais ces décisions-là doivent commencer à être prises, genre la semaine prochaine, là. Il doit commencer à penser à cette saison-là la semaine prochaine. Alors, en tout cas, c'est très intéressant, puis je pense pas que les Canadiens vont commencer à re-signer leur gars la semaine prochaine, mais le fait demeure que on vient d'avoir pour la première fois dans plusieurs générations, une nouvelle convention collective sans arrêt de travail. Et le Canadien, il va falloir qu'il s'ajuste au nouveau règlement, puis il va falloir qu'il commence à s'ajuster très, très, très rapidement, tout en planifiant des séries éliminatoires complètement uniques et sans précédent. Mais la planification pour le moment où le Canadien va faire la transition d'une équipe qui est comme correcte, pas vraiment une équipe de série, pas vraiment la pire équipe de la Ligue. Transition de ça à une équipe qui est une équipe de série, puis après ça, une équipe qui peut prétendre avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Et c'est ça le but. Et tout ça doit commencer à arriver, je pense, un peu plus vite que tout le monde avait prévu. Ça, c'est sûr.
Oui, oui, oui. Ben écoute, je veux dire, dans ce vestiaire-là, c'est sûr que les joueurs, même vont dans les prochains jours, vont commencer à rêver à la Coupe Stanley. Un gars comme Shea Weber, qui, à son âge, doit trouver que les chances de pouvoir gagner la Coupe Stanley ne sont plus très, ne seront plus très nombreuses. Lui, il va se dire, ben écoute, on a peut-être fini 24e, mais si on nous donne la chance de pouvoir entrer en série, ben on va sauter à pieds joints dessus, puis moi, je vais en profiter parce que Dieu sait combien je vais en avoir d'autres, des chances comme ça d'ici la fin de ma carrière. Puis, tu sais, d'une certaine manière, il y a tellement de facteurs externes qui rentrent en ligne de compte durant les séries éliminatoires cette année. Combien de joueurs vont tomber malades, lesquels vont se blesser à cause que le tempo va avoir repris de manière peut-être un peu trop effrénée dans certaines équipes. Il y a bien des éléments qui vont rentrer en ligne de compte qui font en sorte que cette année, plus que jamais, c'est difficile de déterminer clairement des favoris et des négligés. Je sais que le Canadien est négligé par rapport aux Pingouins, mais tu me dirais, le Canadien va battre les Pingouins? Sure, ça se peut tout à fait. Alors, dans une année où il y a autant d'inconnus, je comprendrais les joueurs de dire, peu importe le rang où on a fini en saison régulière, peu importe comment on a joué, le fait est qu'on a une chance de gagner la Coupe Stanley, puis on croit en nos chances autant que celles de n'importe qui d'autre.
Oui, tout à fait. Puis honnêtement, je pense que c'est vrai, tu sais, Marc Bergevin qui adorait dire une fois rendu en série, on sait jamais. Mais là, ça devrait être comme le motto de la, tu sais, ça devrait être le logo de la Ligue nationale, là, on ne sait jamais. C'est exactement ces séries-là. Ces séries-là vont être ça. Alors, ça va être fascinant à voir.
Même en entrant en série, on sait même pas s'il va y avoir des séries.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'on sait jamais.
Okay. Ouais, on sait jamais, mais c'est ça, c'est ça que le Canadien va vivre, c'est ça l'opportunité qu'ils sont devant eux, et je pense que je suis d'accord, non seulement Weber, mais évidemment Price, puis le respect que tous les autres joueurs ont pour ces deux gars-là vont faire en sorte que la motivation va être facile, de gagner pour ces deux gars-là, c'est facilement un message que l'équipe pourrait rallier autour pour dire on sait pas combien de chances que Weber et Price vont avoir pour mettre leur nom sur la Coupe Stanley, alors nous on va essayer de leur donner ces chances-là.
Ouais. Ben écoute, Harpin, là-dessus, on va regarder les joueurs du Canadien au cours des prochains jours s'exercer, puis on va bâtir avec eux le momentum en vue du début de la ronde qualificative. J'ai bien hâte de voir ça. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à athletic.com, vous pouvez le faire en allant au www.athletic.com/supportathletique. Ça vous donne 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. Alors, avec le hockey qui recommence, le baseball qui recommence, la NBA, les camps d'entraînement aussi de la NFL, il va y avoir les 4 sports majeurs et 5, je sais, les amateurs de soccer parmi vous, je le comprends, la MLS également. Tous les sports vont être en activité d'une forme ou d'une autre en même temps. Alors, c'est vraiment, et ça, c'est tout à fait particulier au contexte actuel, donc ça vaut la peine, si vous êtes amateur de plusieurs équipes, plusieurs sports, athletic.com devient donc un carrefour, vous avez tout à la même place, ça vaut vraiment la peine. Harpin, merci beaucoup, on se revoit bientôt.
Ouais, merci Marc-Antoine, puis on serait là le vendredi prochain avec The Athletic Support. Bon camp d'entraînement, tout le monde.
Bye bye.